À vous tous, bon dimanche, et comme vous voyez, nous continuons notre série. 2019, la meilleure année de notre vie, et nous avons dit que ce sera la meilleure année de notre vie si, à la fin de 2019, nous pouvons justement regarder en arrière et constater que nous avons eu plus de victoires dans notre vie chrétienne, dans notre lutte contre le péché, que de défaites. Et le but de cette série, c'est de vous montrer comment alors que 2019 puisse devenir la meilleure année de votre vie. J'aimerais clarifier peut-être deux choses. Ce que la vie chrétienne, la meilleure année, la vie abondante, parce que nous avons dit la semaine dernière dans l'introduction que cette meilleure année, quand nous avons plus de victoires que de défaites, on peut le définir comme une vie abondante dans la plénitude de l'Esprit Saint. Jésus a dit que je suis venu afin que les brebis aient croient la vie et qu'elle est en abondance. Et en Éphésiens, nous lisons que tout chrétien devrait être rempli de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit. Mais ce que la vie chrétienne abondante n'est pas, ce n'est pas la prospérité matérielle. Parce que vous pouvez, tout en étant un chrétien, vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez connaître aussi les difficultés de santé, etc., etc. Et Jésus même a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Ce n'est pas non plus la perfection spirituelle quand nous parlons de la vie abondante. Parce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains chapitre 7 que nous avons cette lutte. Et il va dire aussi que je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais nous ne devrions pas nous décourager, même si on ne peut pas connaître la perfection ici-bas sur la terre. Nous pouvons tendre justement vers une vie abondante dans la plénitude de l'Esprit-Saint, où est-ce que nous progressons de plus en plus, de mieux en mieux, dans ce qu'on appelle la sanctification progressive, où est-ce que nous allons ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'écris ce que c'est une vie victorieuse, vécue dans la plénitude de l'Esprit-Saint. Jésus a donné une belle illustration de cette vie abondante. Il a dit dans Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Il a dit aussi dans Jean 7, 37 à 19, « Si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et l'illustration est bonne. Nous avons justement cette image de quelqu'un qui est en train de vivre dans la plénitude de l'Esprit, et sa vie, c'est comme une source, comme une fleuve, ça jaillit, ça déborde tellement, justement, que c'est une vie abondante. Et vous savez, la vie chrétienne abondante est l'antidote pour l'expérience désertique, c'est-à-dire la sécheresse spirituelle. Et on peut connaître cela, malheureusement, dans notre vie chrétienne. Alors ce matin, nous sommes en train justement de regarder ce texte, et si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à tourner dans le livre de Josué. Nous allons utiliser le livre de Josué maintenant pour mettre devant vous des principes de la vie chrétienne qui nous permettent justement d'entrer dans cette vie abondante dans la plénitude de l'Esprit-Saint. Et je vous mettrai dans le contexte Josué chapitre 1, versets 1 à 9. La semaine dernière, nous avons vu cette première génération d'Israélites qui sont sortis de l'Égypte, délivrés de l'esclavage, mais malheureusement qui ont périt dans le désert à cause de quoi leur incrédulité. Et ici maintenant, dans Josué chapitre 1, dans le contexte, nous sommes avec une nouvelle génération, un nouveau leader dans le personnage de Josué. Et cette nation maintenant se prépare à prendre possession de leur héritage spirituel. Canaan, c'est le bon pays où coule le lait et le miel. Et ça, c'est notre contexte pour le texte que nous allons lire ce matin. Alors, je vous lis Josué chapitre 1, en partir du verset 1. Après la mort de Moïse, un serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendra. On va continuer au verset 10. Josué donnait cet ordre aux officiers du peuple, parcourir le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. On va aller jusqu'à verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Alors voilà notre texte pour ce matin. Et comme je dis, nous sommes ici, où est-ce que les enfants d'Israël se préparent pour entrer, pour prendre possession de leur héritage, que Dieu, ce beau pays que Dieu leur a donné. Mais avez-vous remarqué, il y a quelque chose que Dieu va dire à Josué, passe ce Jourdain. Avant d'être capable justement d'aller et prendre possession du pays, il y a une barrière à franchir. Alors, que peut représenter le Jourdain pour Israël? Il faut que ça va leur permettre de quitter le désert et justement entrer et finir avec une vie d'errance. Entrer dans le bon pays pour prendre possession de leur héritage et devenir des instruments entre les mains de Dieu pour nettoyer Canaan qui avait été pollué par les abominations des nations païennes qui s'y trouvaient. Alors, pour accomplir cela, il faut tout d'abord qu'ils franchissent une barrière physique, le Jourdain. S'il reste de l'autre côté, rien de ce que nous avons ici va s'accomplir. Alors, c'est impératif, c'est très important, c'est primordial que Israël passe le Jourdain pour entrer dans le bon pays que l'Éternel leur a donné. Si je fais le parallèle avec la vie chrétienne, je vous ai parlé la semaine dernière aussi que nous avons un héritage spirituel, la vie abondante dans la plénitude de l'esprit, mais aussi nous avons une barrière qui nous empêche justement d'aller et de jouir pleinement de notre héritage spirituel. C'est quoi? C'est le péché. Galates 5, 17 nous dit ceci, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux et le péché. Telle une barrière sabotera notre capacité de jouir de notre héritage spirituel, c'est-à-dire notre jouissance d'une vie abondante vécue dans la plénitude de l'esprit. » Alors, qu'est-ce qui va nous motiver? Qu'est-ce qui va me motiver maintenant de vouloir franchir cette barrière? En autre mot, de vouloir justement saisir, comme l'apôtre Paul va dire à Timothée, saisir la vie éternelle. La vie éternelle, oui, on va la voir, on va être enlevé de cette terre pour aller dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Mais la vie éternelle aussi, dans une certaine mesure, commence ici maintenant sur la terre. Et dans la mesure que nous sommes en train de vivre dans l'abondance spirituelle, dans la plénitude de l'esprit, nous sommes en train justement d'entrer dans la vie éternelle, comme Paul va dire à Timothée, saisis la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui va nous motiver justement de vouloir vivre ce type de vie? Où est-ce que nous allons maintenant franchir cette barrière du péché et de jouir pleinement de notre héritage? Mais je vous donnerai quelques exemples. Les souffrances de Christ. Christ a souffert pour vous. Et c'est à cause de mes péchés. C'est à cause de vos péchés que Christ a souffert. Et si vous avez vu le film, justement, il y a plusieurs films qui ont été sortis, mais un en particulier, La Passion de Christ. Et là, où est-ce que l'emphase est mise sur les souffrances de Jésus-Christ? Et une chose qui pourrait nous motiver, justement, de vouloir lutter contre le péché et de s'éloigner du péché et haïr même le péché, c'est qu'on est conscient que le péché a fait souffrir terriblement le Seigneur Jésus-Christ. Et chaque fois que je pêche, et je ne parle pas justement d'une manière involontaire, quand de façon délibérée je m'engage dans le péché, c'est comme si je suis en train, encore une fois, d'enfoncer les clous dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause du péché qu'il a souffert. Ça pourrait me motiver alors de vouloir m'éloigner du péché à cause de ses souffrances. Une autre chose aussi qui pourrait nous motiver, c'est le fait que, et surtout si vous êtes rendu à un certain âge, il ne nous reste pas beaucoup à vivre. J'étais jeune, le psalmiste m'a dit, j'ai vieilli. Et Michel Pernod dit souvent, on a simplement un tour de piste. En anglais, on dit « You only get one time around the track ». Et là, en vieillissant, on se rend compte, mais écoute, il ne me reste pas beaucoup de temps. 70, c'est pour les plus robustes, 80. Mais quand on s'approche de ces années, là, c'est comme si on se réveille, écoute, ma vie est en train de s'effriter. Peut-être c'est le temps maintenant que je m'engage justement dans une vie où est-ce que je vais mettre le péché de côté, puis je vais vraiment commencer à servir le Seigneur. Une autre chose aussi, comme nous avons vu avec notre frère Jean, le retour de Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, oui, je viens bientôt. Un autre texte nous dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y a un jour de récompense, on va comparaître devant le Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être ça peut nous motiver, ou ça devrait nous motiver justement, de savoir que Jésus est là et il va donner des récompenses pour une vie vécue fidèle à son service. Est-ce qu'on va être là les mains vides? Est-ce qu'on va être là sauvé comme à travers le feu? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'apôtre Jean reprend cette idée justement en parlant que nous allons être semblables à Jésus-Christ lors de son retour. Alors, c'est une motivation alors de se purifier. Mais il y a une autre motivation aussi que j'aimerais brièvement vous montrer ce matin. Et ça, ça vient de une vérité de Romains chapitre 6, Romains chapitre 8. Ces trois chapitres dans le livre de Romains qui exposent de façon magistrale l'Évangile sont les chapitres clés dans justement cette idée de la vie abondante dans la plénitude de l'Esprit. Et l'apôtre commence avec une réalité historique. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? C'est que Christ satisfait aux exigences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ, quand il meurt, alors les exigences sont payées. Il est mort. Mais une autre chose que nous oublions souvent dans cela, c'est que nous sommes morts avec Christ. Romains chapitre 6 nous dit aussi une réalité spirituelle. Dieu, dans sa sagesse, de façon spirituelle, nous sommes morts avec Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Étant morts avec Christ, les exigences du péché, la mort, à notre égard, ont été satisfaites. Notre dette a été payée. On le dit souvent, quand on évangile, que notre dette a été payée. Mais si vous êtes capable justement de vous rappeler que non seulement Christ est mort, mais moi aussi, je suis mort avec Christ de façon spirituelle. Mais Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il y a une réalité historique. Christ ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est ce que Romains 6, 9 nous dit. Et Romains 1, 4 nous dit que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Alors, en ressuscitant des morts, Christ a brisé le pouvoir de la mort et du péché par la puissance divine. La puissance du pain, la puissance de Jésus-Christ lui-même qui a dit que si vous allez détruire ce temple, je peux le relever en 3 jours. La parole de Dieu nous dit aussi que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit a ramené Jésus d'entre les morts. Alors, la mort, son pouvoir a été brisé. Parce que si le pouvoir de la mort n'avait pas été brisé, Christ serait toujours au tombeau. Mais le fait qu'il est ressuscité montre justement que le pouvoir de la mort a été brisé par une puissance supérieure, c'est la puissance de Dieu. Et Jésus-Christ est revenu d'entre les morts. Mais une autre réalité aussi, spirituelle, que nous, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, nous a ressuscités ensemble. Voyez, mort avec Christ, notre dette a été payée. Ressuscité avec Christ, le pouvoir, et ça c'est très important, c'est clé, de la mort et du péché sur nous a été brisé. De la même manière, de la même puissance, on est ressuscité ensemble avec Christ. Maintenant, qu'est-ce qui découle de cette vérité? Dans un premier temps, une réponse. L'apôtre Paul va dire ceci, « Regardez-vous comme mort au péché, Romains 6, 11, et que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Alors, deux choses très importantes. Nous ne sommes pas redevables au péché puisque notre dette a été payée. On n'a pas besoin de servir le péché. Quand j'ai une dette envers quelqu'un, je suis en quelque sorte redevable envers cette personne. Mais ma dette a été payée. Alors, je ne suis pas redevable, justement, au péché. Et la deuxième chose, puisque le pouvoir du péché sur nous a été brisé par la puissance divine, il est donc maintenant possible de combattre le péché et de remporter des victoires par la même puissance. Ressuscité avec Christ, le pouvoir du péché a été brisé parce que Christ est ressuscité. Mais vous et moi aussi, nous sommes ressuscités avec Christ. Et Dieu nous a donné de son Esprit Saint pour que nous puissions démontrer, en ayant les victoires sur le péché, que effectivement son pouvoir sur nous a été brisé. Maintenant, l'apôtre va dire ceci, regardez-vous, pas seulement mort au péché, mais sur le côté positif, vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes revenu à la vie avec Christ, regardez-vous comme vivant pour Dieu. Et ça, c'est la contrepartie. Quand nous focalisons sur cela, que j'ai une nouvelle vie, que je suis revenu à la vie avec Christ, que j'ai une puissance par le Saint-Esprit qui me permet justement de contrer le pouvoir du péché sur moi, mais qui me donne aussi la capacité de vivre pour Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même, quand il est ressuscité d'entre les morts, le texte nous dit, c'est pour Dieu qu'il vit. Et pourquoi nous devrions nous regarder comme vivants pour Dieu? Parce que nous sommes redevables à Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le fait qu'il nous sauve justement de la perdition éternelle. Le fait qu'il a brisé justement la tyrannie de la mort et du péché dans notre vie. On est redevables. Et une façon de démontrer cela, justement, de dire, maintenant, avant, je servais le péché, mais maintenant, je veux vivre pour Jésus-Christ à cause de tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux vivre pour Dieu. Et la dernière chose, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Par amour, nous devrions acquitter notre dette en nous donnant entièrement à Dieu. Sinon, nous nous rendrons plus vulnérables dans la lutte contre le péché et nous connaîtrons moins de la vie abondante et de la plénitude de l'Esprit. Ça, c'est extrêmement important. Quand nous nous rendons compte vraiment que nous sommes morts au péché, nous sommes morts avec Christ, notre dette a été péchée, nous ne sommes plus redevables. Et quand nous nous rendons compte vraiment et nous nous considérons par la foi que Dieu nous dit, que nous sommes ressuscités avec Christ. Nous avons cette vie en nous maintenant. Nous avons cette capacité de lutter contre le péché, de remporter les victoires, mais de vivre pour Dieu. Par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, nous aussi, d'une manière, un élan d'amour envers Dieu, nous devrions nous donner à Dieu. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on arrive à un moment donné où est-ce qu'on décide justement de dire au Seigneur, « Me voici. Je t'ai donné mes péchés, mais maintenant je veux te donner ma vie entièrement. Je suis redevable, je te mets ma vie en chant. Prends mon âme, prends ma vie. » Et ça, c'est très important si on veut justement connaître cette vie abondante et aussi la plénitude de l'Esprit, pour justement jouir de notre héritage spirituel. Alors ça, ce serait une motivation, comme je dis dans Romains 6, chapitre 8, pour lutter contre le péché et franchir cette barrière. Je ne veux pas dire qu'on va être sans péché, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais on va avoir cette motivation de haïr le péché autant que Dieu est le péché. Et justement de être de ceux et celles qui luttent contre le péché, qui nous empêchent justement de jouir de notre héritage spirituel. Alors, quand nous sommes dans cette position, on est comme Israël maintenant. Eux, ils doivent franchir la barrière de Jourdain pour prendre possession de leur pays, l'héritage spirituel. Chaque croyant qui est en train justement de lutter contre le péché, qui est en train de remporter les victoires, est en train de franchir cette barrière, le péché, qui l'empêche justement de jouir de son héritage spirituel, la vie abondante dans la plénitude de l'Esprit-Saint. Mais Dieu est bon. Parce que quand nous franchissons cette barrière, regarde maintenant qu'est-ce qui arrive pour Israël. Quand Israël va franchir cette barrière, il y a des bénédictions à récolter. Et quelles sont ces bénédictions? Dieu va dire à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. » Dieu donne Canaan à Israël, mais il faut qu'Israël en prenne possession. Très important. Dieu a dit, tout cela, c'est à vous. Il vous donne. Mais il faut que vous vous y alliez et qu'il faut que vous en preniez possession. Il y a une différence. Tout est là. Mais est-ce que vous allez justement désirer ce que je vous donne au point d'aller justement et en prendre possession? Les possibilités sont illimitées. Comme on dit en anglais, the sky is the limit. Et vous avez justement une carte de cela. Je peux vous montrer ici, ça c'est le Jourdain où est-ce qu'ils vont traverser. Et tout ici, là, Dieu dit, je vous donne cela. Pour nous maintenant, les chrétiens, comme sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et la piété, à cause de cela, faites tous vos efforts. Vous voyez le parallèle? Dieu nous a donné tout ce qui contribue, mais nous aussi, nous avons une responsabilité, si on veut en prendre possession, de joindre à votre foi la vertu, à la vertu de la connaissance, etc. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le croyant, qui est vraiment conscient de ce qu'il peut posséder et qui veut tout ce que Dieu peut lui donner, qui est en train de vivre justement cette vie abondante dans la plénitude de l'Esprit-Saint. Cette croyante-là va entrer au ciel largement accorder l'entrée, la tête haute. La tête haute. Il n'arrive pas là avec la tête comme ceci. Oh, 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 oh. Non, non, non. Sur la terre, il est déjà en train de vivre cette vie extraordinaire. Et quand il arrive au ciel, il rentre. Et j'imagine les anges, Seigneur, qui dit, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. D.L. Moody a dit ceci, ce monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire à travers un homme qui est entièrement consacré à lui. Avec l'aide de Dieu, je vise à être cet homme. Il n'y a pas de limite. Les possibilités, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. La question pour vous et moi ce matin, combien en voulons-nous? Tout est là. La deuxième chose dans ces bénédictions, c'est le pouvoir. Dieu va dire à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu rassure Josué qu'il sera victorieux dans ses combats contre les ennemis qui se dresseront contre lui et Israël. Tu franchis le Jourdain, oui, bien sûr. Tu vas avoir justement la possibilité de prendre tout ce territoire, mais aussi je vais te donner le pouvoir. Dans les combats, tu vas être victorieux. Paul va dire ceci aux chrétiens, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le croyant, vivant dans la plénitude de l'Esprit Saint, l'Esprit n'est pas attristé par le péché, aura sa puissance pour remporter des victoires dans sa lutte contre le péché. C'est ça, c'est une vérité. L'Esprit Saint nous rend capables par sa puissance, justement, d'aller prendre possession de tout ce que Dieu veut pour nous. Cette vie abondante dans la plénitude de l'Esprit. Et le même pouvoir que Dieu va donner à Josué pour qu'il puisse prendre possession de ce que Dieu veut leur donner, nous avons le même pouvoir aussi. Et Paul dit, nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Une autre chose aussi, ce qui va arriver avec Josué, il va dire, quand tu vas passer, tu vas passer ce Jourdain, ma présence sera là, je serai avec toi. comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué ne sera pas seul dans cette guerre, son Dieu fidèle va l'accompagner. Dieu a dit, je te garantis, Josué, c'est moi qui vous ai fait entrer, c'est mon plan, j'ai préparé tout cela, même dans l'éternité passée, mais moi, je vais coller avec toi, tu auras ma présence. Et vous savez, un texte dans Jacques nous dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Vous voyez, ce texte est au beau milieu. « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Souvent on dit, « Oh, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec nous. » Mais est-ce que nous sommes vraiment conscients de sa présence? Et ce texte nous montre que ceux qui luttent constamment contre le péché, qui se soumettent à Dieu, qui résistent au diable, qui nettoient leurs mains en confessant le péché, purifient leur cœur, seront plus conscients à travers une douce intimité de la présence de Dieu dans leur vie. Comme Dieu a dit pour Josué. Alors passe ce Jourdain, une barrière à franchir, des bénédictions à récolter, mais pour Josué, des besoins à combler. Quels sont ces besoins? Dans un premier temps, une conviction. Parce que ce que Josué et Israël est en train, ce sont des préparatifs pour entrer. Mais il y a des ennemis qui sont là. Il y a justement les combats à livrer. Il peut y avoir des moments difficiles. Et Dieu va mettre, il va semer dans le cœur de Josué une conviction. Il va dire, c'est toi. C'est toi, Josué, qui mettra ce peuple en possession du pays que jurer à leur père de leur donner. Et dans les moments de doute et de découragement, Dieu veut que Josué se souvienne de son appel afin de ne pas être tenté d'abandonner son poste. Et ça, c'est clair pour n'importe quel leader. Ça, c'est clair pour n'importe quelle personne qui dit « Oui, je veux vivre cette vie abondante dans la plénitude de l'Esprit-Saint. » Et peut-être à cause de cela, Dieu va donner à cette personne une position de leadership. Mais il y a des choses qui viennent avec le terrain. Et si on n'a pas cette ferme conviction dans le cœur que c'est là que Dieu m'a placé, on va être tenté justement d'abandonner. Dieu va donner cette conviction. Il connaît son serviteur. Et Dieu va lui donner cette conviction pour l'enraciner dans l'œuvre à laquelle il l'a appelé. C'est toi, Josué. Il va combler ce besoin chez Josué. Une autre chose aussi, du courage. Quand Josué et Israël vont franchir le Jourdain, la première chose qu'ils vont voir, c'est quoi la ville de Jéricho. Et Jéricho était une des villes les plus fortifiées de Canaan. Dans ce pays-là, il y a aussi des Anakim. Vous vous rappelez quand les 12 espions sont allés? Ils ont dit, on a vu des géants. Les Anakim, et nous étions à leurs yeux, et aux nôtres comme des sauterelles. Et comme je dis la semaine dernière, ces ennemis ne vont pas justement jouer le mort au mort. Là. Ils vont combattre farouchement contre Israël. Alors Josué a besoin de quoi? De courage. Et Dieu lui montre justement sa source de courage. Il a dit, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En vivant selon les principes qui se trouvent dans la parole de Dieu, Josué trouvera la force et le courage nécessaires pour mener le bon combat et accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait choisi. Alors Dieu aussi va combler le besoin en dirigeant Josué. Il va lui donner une conviction, mais il va aussi lui donner le courage. Il dit, va puiser ta force et ton courage dans ma parole. C'est là pour cela. Et la troisième chose aussi qu'il va donner à Josué, c'est une confiance qui inspire la coopération. Regardez le texte ici. Josué est maintenant armé avec cette conviction. armé avec justement ce courage qu'il sait qu'il va puiser dans la parole de Dieu, il va dire aux enfants d'Israël, « Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Ça, c'est un homme convaincu. Il sait qu'il est à la bonne place. Il sait qui l'a appelé. Et maintenant, il est capable de transmettre cette confiance. Il est énergisé par cette confiance. Il va dire, vous allez passer et vous allez aussi aller conquérir parce que c'est Dieu qui vous donne cette possession. Et regarde maintenant la coopération. Et ça, c'est bon pour la collectivité. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné par justement les deux tribus et demi. Et nous irons partout où tu nous enverras. Un leader convaincu et courageux inspirera la confiance chez ceux qui le suivent et bénéficiera de leur coopération. C'est important pour Josué de rentrer dans son héritage spirituel, mais c'est aussi important pour Israël d'y rentrer. Il y a des bénédictions pour tous. Et dans la collectivité, quand le Seigneur suscite justement des leaders qui sont en train de vivre dans la plénitude de l'esprit, cette vie abondante, et ces personnes voient que l'œuvre du Seigneur est en train de s'accomplir, ça inspire la confiance maintenant dans la collectivité. Et c'est ça ce dont Israël a besoin. Et Dieu va donner justement cette conviction à Josué, le courage, et lui donner la confiance, justement la confiance pour que les gens le suivent. Alors je termine avec ceci. L'application. La vie chrétienne abondante, pas quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui est possible parce que nous avons été ressuscités avec Christ. Nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous avons le pouvoir de lutter contre le péché et de vivre dans la plénitude de l'Esprit. Mais ça commence avec un désir. Le désir, oui, je le veux. Ça commence là. Et si vous avez connu assez d'une expérience désertique, vous avez regardé votre vie, vous dites, écoute, 2018, 2017, 2016, qu'importe, je veux que 2019 soit une année où est-ce que je vais justement être dans cette sphère d'abondance spirituelle. Ça commence avec un désir. C'est comme deux personnes qui veulent se marier. Et quand il arrive là, cet homme qui regarde cette femme et dit, oui, je le veux. Ça commence avec un désir. Deuxième, une décision. Dans Hébreu, l'auteur va reprendre le même texte en parlant d'Israël, en parlant de cette première génération qui ne sont pas entrées. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Et là, il donne un avertissement aux chrétiens. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce que la chair va lutter contre ce type de vie. La chair va vous dire toutes sortes de choses. Si vous vous engagez dedans, vous allez perdre ci, vous allez perdre ça, la vie va être plate, et ainsi de suite. Et le Seigneur nous avise de ne pas être comme Israël. C'est ça notre héritage spirituel. C'est cette vie abondante, c'est cette vie où est-ce qu'on aura justement un impact, une influence. On va ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, on va porter fruit, on va être des adorateurs, on va être ceux qui prient dans la puissance de l'Esprit. On va voir des choses extraordinaires. Mais la chair va dire, non, j'aimerais mieux rester dans ma petite vie et jouir du plaisir de ce monde, mais qui sont pour un temps. Troisième chose, si on veut concrétiser cela, un désir, une décision, mais ça passe par un don. Je reviens au texte. Donnez-vous vous-même à Dieu. Le moment que je me présente devant Dieu et je me dis, me voici Seigneur, avec ton aide maintenant, je désire prendre possession de ce que tu veux me donner. Une vie abondante dans la plénitude de l'Esprit Saint. Je me donne à toi. Donnez-vous vous-même à Dieu. Dieu désire plus que seulement vos péchés. Il vous désire. Et comme D.L. Moody a dit, ce monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire à travers une personne, un homme ou une femme. qui est entièrement consacré à lui. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Aussi, une église aussi, qui a cette même attitude. On veut vivre cette vie abondante dans la plénitude de l'Esprit Saint. Où est-ce qu'on va dire maintenant non au péché? Il va y avoir des chutes, oui, parce qu'il n'y a personne qui est parfaite. Mais dans la plénitude d'esprit, on va remporter plus de victoires que de défaites. Dieu va être glorifié et nous allons vraiment nous jouir de cette plénitude, cet héritage spirituel que Dieu vous donne et me donne. Alors je termine avec cela. Si le Seigneur vous a parlé ce matin, endurcissez pas votre cœur. Vous avez un geste à poser. Donnez-vous vous-même à Dieu. Et si vous n'avez jamais fait cela, même pour le salut de vos âmes, c'est encore le temps. Le Seigneur est ici. Ses bras sont ouverts. Il dit, je vous aime. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. La semaine prochaine, notre frère Denis va continuer. Dernière chose, il y a des commentateurs, quand ils ont passé le Jourdain, parce que lui, il va reprendre dans le chapitre 5, mais quand ils ont passé le Jourdain, Israël a fait deux choses. Ils ont pris 12 pierres et ils ont mis des pierres dans le Jourdain. Parce que quand ils ont touché le Jourdain, les eaux se sont séparées, ils ont passé. Ils ont mis 12 pierres là. Et quand ils sont sortis, ils ont pris 12 pierres qui étaient dans le Jourdain et ils ont mis sur les rives du Jourdain. Alors, il y avait 12 pierres ensevelies. Quand les eaux sont revenues, sont ensevelies, il y a 12 pierres qui sont sur, justement, les rives. Et le commentateur qui voit cela comme une image aussi, comme je vais vous expliquer, enseveli avec Jésus-Christ, sa mort, dans le baptême de sa mort, mais aussi ressuscité sur l'autre bord, enfin, justement, d'aller conquérir Canaan et prendre possession de leur héritage. Cette vie dans la puissance du Christ qui est ressuscité. On va prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Ce matin, nous te remercions que tu es notre Josué spirituel. D'ailleurs, ce mot Josué, c'est le même mot que Jésus. Et tu es notre capitaine, Seigneur, et tu peux nous donner cette victoire. Alors, donne-nous le désir, Seigneur, de vouloir te suivre. Merci d'avoir remporté la victoire sur le péché. Et maintenant, donne-nous de nous regarder comme vivants pour toi, des vaillants soldats qui veulent justement prendre possession de tout ce que tu as pour nous. Seigneur, que ta grâce surabonde sur cette Église et fait de chacun de nous, Seigneur, des Josué, afin que nous puissions te glorifier. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.